Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceau avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour et bonne année.
Et bonne année effectivement et Michel Lafon. Cette semaine, petite semaine en termes de nombre de sorties, 6 seulement, Un ours dans le Jura, Bird, 6 jours, Mika ex machina, L'amour au présent et Toto Chan, La petite fille à la fenêtre. Pas beaucoup de films mais... On en a vu quand même pas mal, on en a vu 4 sur 6 à tous les deux. Pour la programmation musicale, là j'avais l'embarras du choix. On va commencer par un titre qu'on entend dans Bird. Dans Bird, on entend beaucoup de chansons anglaises. On entend The Verve, on entend Blur, on entend aussi Coldplay. Et sur Coldplay, c'est un titre très connu de Coldplay, ça s'appelle Yellow. Et c'est donc sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Et on entend ça dans le film Bird.
All yellow.
Coldplay, Yellow, un titre que l'on entend chanter d'ailleurs à tue-tête dans le film Bird. On en reparle de Bird dans une petite dizaine de minutes. On commence notre semaine cinématographique avec Un ours dans le Jura. Le film est proposé au Pathé Quinconce, au Méga CGR et au Colisée. C'est un film de Franck Dubosc, acteur bien sûr, mais aussi réalisateur et scénariste. Né en 63, il a déjà à son actif donc deux films. En 2018, Tout le monde debout avec Alexandra Lamy, Elsa Zilberstein et lui-même. Et puis en 2021, Rumba la vie avec lui-même et Luna Espinosa. Acteur, on l'a vu dans 10 jours sans maman ou 10 jours encore sans maman ou Noël joyeux ou Plan de chat ou Nouveau départ. Et puis bien entendu, Camping, hein, forcément. Pierre, parle-nous de ce film de Franck Dubosc, Un ours dans le Jura.
Durée 1h53, avec Franck Dubosc, Laure Calamy et Benoît Poulvorde. Le synopsis, Michel et Cathy, un couple usé par le temps et les difficultés financières, ne se parlent plus vraiment, jusqu'au jour où Michel, pour éviter un ours sur la route, heurte une voiture et tue les deux occupants. Deux morts et 2 millions en billets usagés dans le coffre. Forcément, ça donne envie de se reparler et surtout de se taire. La revue de presse, le journal du dimanche. Excellente surprise que ce thriller enneigé à l'humour noir irrésistible s'inscrivant dans la directe lignée des frères Cohen. La Croix avec Corinne Renoux-Nativelle. Franck Dubosc séduit avec son troisième long-métrage, une comédie noire qui brosse le portrait touchant d'un couple et d'une communauté villageoise aux prises avec un trafic de drogue. Le Parisien avec Catherine Ball, une comédie noire très réussie et délicieusement amorale, fait penser au Fargo des frères Cohen, avec ses personnages de bras cassés cupides et ses paysages enneigés. Télé 7 jours avec Julien Barcillon, cette comédie noire est la plus belle manière de débuter l'année. Télérama avec Guillemette Odissino, suivant la veine du film des frères Cohen, l'humoriste réussit une comédie policière noire et absurde dans des décors majestueux. Le Monde, ce thriller de Noël, doit beaucoup à l'incursion de Laure Calamy sur le terrain de la grosse comédie. Il reste que l'intrigue finit par se recroqueviller dans une histoire de truand, sans compter la distribution de blagues de qualité inégale sur des sujets divers et variés, migrants, sadomasochisme et relations familiales. Ouest France avec Philippe Lemoine. Si le film démarre en trombe, il cale assez vite dans la montée. La faute à un scénario qui s'enlise un peu et une interprétation assez fade des deux protagonistes masculins, Dubosc et Poulvorde. Un ours dans le Jura aurait pu continuer dans la veine noire et un tantinet trash du début. Il rebascule assez vite dans une comédie plus classique et moins surprenante. Et enfin, Le Figaro, avec Olivier Delcroix. Au final, cette balade dans le Jura ressemble à une randonnée mal préparée. Quant à l'ours, il aurait mieux fait de rester dans ses montagnes.
Voilà, donc le film Un ours dans le Jura est proposé au Colisée, au Méga CGR, au Pathé Quinconce. Bon, étonnant, hein, on n'attendait pas Franck Dubosc, réalisateur, dans ce registre du film noir, à l'humour de la même couleur. Encore que, il y a bien longtemps moi, que je dis que Franck Dubosc est un excellent acteur et pas seulement le personnage de vantard m'as-tu vu de ses one-man shows ou des films de la série Camping. Je trouve que Franck Dubosc est un très bon acteur. En effet, on est ici beaucoup plus, et tous les critiques l'ont souligné, et Franck Dubosc lui-même le revendique. On est beaucoup plus dans l'esprit des films des frères Cohen comme Fargo que du personnage de Patrick Chirac. Ça, c'est une évidence. Donc, pour moi, voici un excellent film interprété par d'excellents acteurs dans un registre de sobriété absolue, loin de l'image qu'ils ont parfois véhiculée, que ce soit Franck Dubosc, mais aussi Benoît Poulvorde. Des personnages vulnérables, pleins de fêlures, qui se retrouvent dans une aventure qui les dépasse à partir d'un incident banal. Cet incident, c'est quoi ? C'est l'accident provoqué par un ours qui amène Michel à perdre le contrôle de son véhicule et à tuer deux personnes, de façon totalement accidentelle. Et à partir de là, c'est un engrenage de mauvaises décisions qui s'enchaînent parce que Michel et sa femme Cathy découvre une grosse somme d'argent qui pourrait bien changer la vie de ce couple, atteint par l'usure des sentiments, mais aussi la vie de quelques autres personnages de ce village du Jura. Donc c'est un film entre thriller et comédie, d'un cynisme réjouissant, avec des personnages très bien écrits, plein de petites notations cocasses ou touchantes, y compris dans les seconds rôles, avec un scénario implacable, le tout parfaitement maîtrisé et mis en scène, d'où un résultat que j'ai trouvé, moi, réjouissant, savoureux. Un film au ton vraiment original qui constitue une excellente surprise, qui mérite de rencontrer le succès auprès d'un large public, qui sort des sentiers battus par son ton décalé, par sa conception iconoclaste. Pour moi, c'est une vraie réussite. Je sais que Pierre ne partage pas cet avis-là.
Oh, c'est moyen, je ne vais quand même pas détester. Mais... Alors donc, un film signé Dubosc, dont l'humour n'est pas ma tasse de thé, bah c'est vrai ça, mais qui m'a attiré par son côté dramatique, un thriller à la française. Alors je diviserai ce film en deux parties. La première heure est plutôt penchée sur un humour cynique, auquel je suis resté de marbre, bah oui, malheureusement, contrairement à certains spectateurs qui ont bien ri à côté de moi quand même. Et puis il y a deuxième heure qui m'a semblé beaucoup plus intéressante, avec l'arrivée totalement inattendue de nouveaux personnages ambigus et peu recommandables, et là on est arrivé dans le suspense d'un polar bien ficelé. La distribution est très bonne, à part Franck Dubosc, citons Laure Calamy, Benoît Poulvorde et aussi Kim Higelin, la petite fille de... Oui. Alors elle, je l'adore, surtout depuis Le Consentement, je l'ai adoré.
D'accord.
Donc, pas de regret, c'est un film quand même que j'ai bien aimé, finalement.
Alors, on peut voir ce film au Colisée, au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Bird, en revanche, on ne peut le voir qu'au cinéaste, et Bird a droit à 2 séances par jour. C'est un film de la réalisatrice Andrea Arnold, réalisatrice, scénariste, productrice. Elle est en 61, elle a commencé par de nombreux courts-métrages. 2006, premier long, Red Road. 2009, Fish Tank. 2011, une version des Hauts de Hurlevent. 2016, American Honey, avec Shia LaBeouf. 2021, Cow, un documentaire. Et puis, elle a aussi à son actif des épisodes de séries. À toi, Pierre, de nous parler de Bird.
Durée 1h58, avec Barry Keoghan, Franz Rogowski et Nikia Adams. Le synopsis, à 12 ans, Bailey vit avec son frère Hunter et son père Bug, qui les élève seuls dans un squat au nord du Kent. Bug n'a pas beaucoup de temps à leur consacrer, et Bailey, qui approche de la puberté, cherche de l'attention et de l'aventure ailleurs. La revue de presse, Cinématiseur avec Aurélien Alain. Ce saut dans le vide de ceux qui font les meilleurs cinéastes, les moments de cinéma mémorables et les grands films indomptés, Arnold ne le fait pas seul. Ses acteurs le font aussi, sans ciller, sublime d'implication et le spectateur de suivre, obligé par tant d'évidentes beautés sidérées. Le journal du dimanche, une fable de haut vol. Le Parisien avec Renaud Baronian, aussi lucide que bienveillante dans sa façon d'emballer son sujet, avec une intrigue pleine de suspense, mais sans jamais renoncer à un esprit festif, Arnold signe une petite merveille sociale, rock et fantastique, rythmée par une bande-son décapante. La Croix, avec Céline Rouden, adepte d'un cinéma social radical, la cinéaste britannique Andrea Arnold injecte poésie et fantastique dans ce splendide récit du passage à l'adolescence d'une enfant de 12 ans qui se réfugie dans l'imaginaire pour surmonter la violence du monde. Les Échos, avec Olivier De Bruyne, un film âpre et surprenant. Télérama, avec Jacques Maurice, explosif et euphorisant. Les Inrecuptibles avec Théo Ribeton. Andrea Arnold revient au décor le plus naturel de son réalisme social, quand bien même elle y introduit justement une dose de fantastique allégorique qui n'est pas sa partie la plus réussie. Et enfin, La Tribune du dimanche par Alexis Campion. La mise en scène d'André Arnold, élégante, pleine de ressorts, paraît séduisante, mais parfois artificielle, à force de jouer la carte des échappées oniriques et du ghetto plus cool que misérabiliste.
Bird, donc Bird, c'est un film qui est proposé par les cinéastes avec 2 séances par jour et c'est la chronique de quelques jours dans la vie de Bailey. Bailey, c'est une jeune adolescente de 12 ans. issu d'une famille totalement déstructurée et dysfonctionnelle avec de nombreux frères et sœurs ou demi-frères, demi-sœurs. Bailey vit chez son père dans un appartement qui ressemble plus à un squat qu'à un home sweet home. Et chez son père et sa belle-mère, sa nouvelle belle-mère, qui vont se marier dans quelques jours. Elle va aussi voir fréquemment sa mère et son compagnon, son nouveau compagnon à sa mère, que ce nouveau compagnon qui est une brute épaisse. Bref, une belle brochette de cassos, comme on dit péjorativement. Un jour, Bailey fait la rencontre d'un homme étrange qui dit s'appeler Bird et qui devient son ami, son confident et qu'elle va aider à retrouver son père dans ce qui constitue une sorte d'histoire secondaire dans le film. Alors typiquement, c'est le film, vous l'avez vu, que les critiques adorent et moi qui me laisse complètement indifférent jusqu'à l'ennui. Pas d'intrigue à proprement parler, le film ne démarre jamais vraiment. Une caméra à l'épaule permanente qui suit de façon chaotique l'héroïne dans ses pérégrinations pour faire pris sur le vif, des personnages et leurs histoires totalement anecdotiques et pour moi sans intérêt, avec une touche de fantastique dans la dernière demi-heure. Mais je reconnais quand même qu'il y a une vraie énergie de la part des acteurs et de l'empathie de la réalisatrice pour ses personnages dans ce film, dans la veine sociale prolo, on va dire. Alors, c'est pas du tout mon genre de cinéma, je suis pas vraiment rentré dans le film, je suis peu sensible à son univers et à sa poésie, et ça dure pour moi trop longtemps, parce que c'est quasiment 2 heures. Donc moi, je vous le recommanderais pas, mais c'est vraiment pas mon genre de film, donc allez vous faire votre opinion par vous-même. Ça s'appelle Bird, et c'est au cinéaste. Dans Un ours dans le Jura, on entend une chanson que j'avais oubliée, et on l'entend même 2 fois, une chanson de Marie Laforêt.
Oui.
Eh, ça te dit quelque chose cette chanson ? L'amour comme à 16 ans.
Oui, c'est ça.
Et donc, on va l'écouter pour la première et certainement dernière fois dans Clap sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. L'amour comme à 16 ans, on entend cette chanson deux fois dans le film de Franck Dubosc, Un os dans le Jura, et c'est interprété par Marie Laforêt, actrice et chanteuse bien oubliée aujourd'hui et qui avait des yeux absolument magnifiques, puisqu'on l'avait surnommée La fille aux yeux d'or, qui est d'ailleurs un film qu'elle avait joué, un film de Jean-Gabriel Albicoco. Voilà, six jours, c'est un film qui est proposé par le Méga CGR et le Pathé Quinconce. Son réalisateur Juan Carlos Medina, réalisateur et scénariste américain, mais oui, américain, a son actif un court-métrage. En 2012, un film, moi je l'avais vu, c'était pas si mal que ça, Insensible, c'était un film un peu fantastique. 2016, Golem, le tueur de Londres, film envoyé en VOD directement, et des épisodes de série également à son actif. Pierre, parle-nous de six jours.
Durée 1h41, avec Samy Bouagila, Julie Gaillet et Philippe Résimon. Le synopsis, Nord de la France, 2005. Malik, inspecteur de police, assiste impuissant à la mort d'une enfant suite à un kidnapping. En charge de l'enquête, il échoue à retrouver le meurtrier. 10 ans plus tard, sans éléments nouveaux, sans trace d'un dangereux criminel qui court toujours, l'affaire s'apprête à être classée définitivement. Mais quand de nouveaux faits en lien avec l'affaire se révèlent, Malik entame une course contre la montre dans l'espoir de résoudre l'enquête avant l'expiration du délai de prescription dans 6 jours. C'est le temps qui lui reste pour retrouver le coupable. La revue de presse, Le Parisien avec Michel Valentin. Étonnamment, c'est un réalisateur américain d'origine espagnole, Juan Carlos Medina, qui parvient à instaurer cette chape de plomb s'abattant sur ses personnages et clouant le spectateur à son fauteuil. Il maîtrise à la fois cet environnement anxiogène, tout comme le compte à rebours qui rythme l'intrigue et plane, telle une épée de Damoclès, au-dessus des protagonistes. Le point. Malgré une bande originale bien chargée, 6 jours est porté par le jeu solide de Samy Bouagila, Julie Gaillet et Philippe Résimon. L'Obs avec Guillaume Loison. On devine l'enthousiasme du réalisateur à sa manière compulsive de ciseler ses effets, mais à trop en faire, épate visuelle, surenchère des rebondissements, 6 jours, manque d'épure et de spontanéité. Et enfin, première avec Thierry Chaise, promesse hélas non tenue à cause d'un scénario au rebondissement mal ficelé, à une BO épuisante et une mise en scène trop rarement inspirée, Juan Carlos Medina n'a toujours pas confirmé les promesses de son premier long, Insensible.
Voilà, 6 jours, c'est proposé par les, cinémas Méga CGR et Pathé Quinconce. Un polar qui partait bien, moi j'avais envie de le voir parce que la bande-annonce était très bien foutue. Un polar qui partait bien, mais qui à cause d'une accumulation d'invraisemblance, finit par ne plus convaincre du tout. Alors en effet, au départ, il est question d'un cold case, comme on dit, hein, 15 ans auparavant. Une petite fille kidnappée meurt au moment du dépôt de la rançon. Sa mère et un flic qui est sur l'affaire, ne parviendront jamais à retrouver le coupable. Et l'affaire risque donc d'être classée. Mais à 6 jours du délai de prescription, un indice va peut-être relancer l'affaire, d'autant que, quelques temps plus tard, une affaire de kidnapping aux ressemblances troublantes avec la première semble indiquer que le coupable a de nouveau frappé. Alors, personnages de flics caricaturaux, pas tellement celui de Samy Bouagila, mais tous les autres sont des personnages complètement caricaturaux. Rebondissements alambiqués et sans aucune crédibilité ruinent un point de départ intéressant. Alors certes, il y a une atmosphère très sombre, on est dans le nord de la France, je crois que c'est à Dunkerque, il pleut tout le temps, bon, c'est dans le nord, hein, comme on le dit dans les Bienvenus chez les Ch'tis. Samy Bouagila est investi dans son rôle, mais les scénaristes ont une imagination tellement fertile que ça fait capoter l'histoire à laquelle on finit par ne plus croire tant elle est tirée par les cheveux. Et moi qui avais beaucoup d'espoir dans ce film, j'en suis sorti très déçu parce que trop invraisemblable. Ça fait partie de ces polars où les scénaristes se font plaisir et l'objectif est de perdre le spectateur, mais bon, ça n'est pas un attrait phénoménal, loin de là. Ça s'appelle 6 jours, on peut le voir au Méga CGR et au Pathé Quinconce. Mika Ex Machina, c'est un film là qu'on peut voir au cinéaste, une ou deux séances par jour. Ils sont deux réalisateurs, ou réalisatrices plutôt, Mika Tar et Deborah Sayag, à leur actif court-métrage et mini-série. Et puis en 2004, un film de long-métrage, Foun, F2ON, je pense que ça se prononcera Foun, co-réalisé avec Benoît Pétré. Voilà, donc ce film, Mika Ex Machina, il est proposé par les cinéastes. 1h35 pour ce film, avec les réalisateurs, plutôt les réalisatrices, dans des rôles principaux de ce film. Depuis plusieurs mois, Mika trouve chaque jour des choses étranges sur sa moto. Ruban rouge, pièces de monnaie, antivol, jusqu'à ce qu'un mini cadenas caché dans la chaîne de son moteur manque de lui causer un grave accident. Déterminée à trouver le coupable, elle filme sa moto à distance avec l'aide de ses amis et IES. Très vite, les fantasmes et projections de chacun... Chacune brouille les pistes. Harcèlement, drague ou vengeance? La situation est-elle romantique, romanesque ou menaçante? Mika et sa bande mènent l'enquête. Ludovic Béot dans Les Inoccupables, aussi bien film d'espionnage, low-fi, thriller paranoïaque, code à l'amitié. Ode à l'amitié. Le film de Mika Tarr et Déborah Sayag offre une expérience réjouissante pour commencer l'année. Augustin Pietron Locatelli dans Télérama. D'abord joyeusement frénétique, son enquête, en fait un aperçu assez mal filmé à l'iPhone de la quasi-totalité de la sphère amicale de la réalisatrice, de Constance Debray à Ludivine Sagné, s'épuise à mesure que les élucubrations des protagonistes s'entrechoquent. Enfin, Thierry Chan en première, un petit jeu dont on se sent hélas vite exclu, car se montrant incapable de transcender la situation pour raconter comme ambitionné quelque chose sur les rapports humains dans notre société. Pierre et moi, nous ne sommes pas déplacés pour aller voir Mika Ex Machina. Pas envie. Et puis, il n'y a pas beaucoup de séances non plus au cinéaste pour aller voir ce film. On va en parler juste après, mais on va parler de L'Amour au présent. Et dans L'Amour au présent, on entend beaucoup de chansons. Et on entend, sur le générique de fin, cette chanson I'm on your team. Et c'est Romy et Sanfa qui sont les interprètes de cette chanson. I'm on your team, que vous allez entendre sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, chanson du générique de fin.
My defense system, I want you to surround me. Anytime I go out, you're still the only sound that I hear. You've taken me to higher ground. I'm never coming down. Even when we're in a crowd, it's like there's no one else around. And I hope the way I feel tonight is the way I feel for life. Is the way I feel for life. Thank you.
to me, hold me. There's something I've not told you. I'm on your team, your team, but God always calls you. There's no in between, between. I want the truth only. Could you love me wholly?
We both know we're still learning.
Romy et Sanfa, I'm on your team, un titre que l'on entend sur le générique de fin du film L'amour au présent. Eh ben justement, c'est le moment d'en parler, L'amour au présent. Le film est proposé au Méga CGR et au Pathé Quinconce. Au Pathé Quinconce, il y a de la VO, Méga CGR, je ne sais pas. En tous les cas, moi, je l'ai vu en VO. L'amour au présent, c'est réalisé par John Crowley. John Crowley, c'est un réalisateur irlandais. En 2003, il réalise Intermission, un film inédit en France. En 2007, moi, je l'ai vu, ça s'appelait Boy A, avec Andrew Garfield et Peter Mullan. Il a ensuite réalisé Is Anybody There, qui est inédit en France pour le moment. Closed Circuit, ou Closed Circuit, que je ne sais pas comment on dit, Circuit en anglais.
Circuit ?
Oui, en anglais.
Circuit.
Voilà, avec Eric Bana et Ciaran Innes. Brooklyn, alors là, une fois de plus, c'est Pierre qui va y aller. Saoirse Ronan, comment on dit l'actrice irlandaise. Saoirse, S-A-O-I-R.
Saoirse.
Voilà, voilà, parce que là, moi, je ne sais plus comment on dit.
Voilà, il y a un prénom qui va être dur aussi.
Oui, oui, donc, et là, c'était très bien, film, comme
oui, très
Brooklyn.
Bien.
Ensuite, il a réalisé Le Chardonneret aussi, et puis il a son actif des tas d'épisodes de séries, télé, entre autres. Pierre, parle-nous de L'amour au présent et le titre original qui n'est pas L'amour au présent.
Exactement, c'est We Live in Time, avec Andrew Garfield, Florence Pugh et Alife Hines. Oui, je vais y arriver. Le synopsis, Almut et Tobias voient leur vie à jamais bouleversée lorsqu'une rencontre accidentelle les réunit. Une romance profondément émouvante sur les instants qui nous changent et ceux qui nous construisent. La revue de presse, Cinématiseur avec Renan Cross, un pur mélo sublimé par un duo merveilleux où l'émotion n'est jamais exactement là où on l'attend. Libération avec Camille Nevers. La sincérité totale de L'amour au présent emporte défaut et mièvrerie dans sa sentimentalité minutieuse à laquelle peu de films se risquent. C'est rare, un vrai bon feel not good movie. Télé 7 jours. Au service de personnages super attachants, l'écriture est subtile. Andrew Garfield et Florence Pugh, en couple moderne et déconstruit, sont irrésistibles. Télérama, avec Cécile Murray, une chronique sentimentale délicate et rafraîchissante. Écran large, avec Antoine Déru, L'amour au présent se planque trop derrière sa structure faussement habile de mélo tire-larme déconstruit, mais il reste un puissant film d'acteur où Andrew Garfield et Florence Pugh impressionnent par leur justesse. Première, avec Thierry Chaise, certaines scènes, dont un accouchement, marquent les esprits. Et pourtant, on ne s'abandonne jamais totalement à ce qui se joue à l'écran. La faute à ce choix de récit en flashback et en flash-forwards qui crée des ventres mous à répétition, mais donne surtout la sensation d'un artifice visant à protéger à tout prix le récit d'un déferlement d'émotions qui pourrait rimer avec sensiblerie. Le Parisien, avec Renaud Barognan, reste, heureusement et comme souvent, l'interprétation 5 étoiles de Florence Pugh dans le rôle d'Almut. Aussi pétillante que touchante, elle survole la distribution et nous accroche sans cesse à son regard. Ça n'est hélas pas suffisant pour sauver le film. Et enfin L'Obs, avec Nicolas Chaleur. Hélas, des intérieurs propres dignes d'un catalogue Maison du Monde, au regard de Cocker d'Andrew Garfield, la larme à l'œil à chaque plan, en passant par les apparitions purement utilitaires de l'enfant, le mélo est de nature superflue, trop bobo pour être honnête.
Voilà, l'amour au présent, proposé par le Méga CGR et le Pâté Quinconce. Au Pâté Quinconce, il y a au moins une VO par jour. J'ai pas fait attention si c'était le cas au Méga. En tous les cas, la vraie originalité du film tient à son montage avec ses allers-retours constants dans le temps, sa chronologie totalement déstructurée, mais qui reste quand même parfaitement lisible si on reste un minimum attentif, parce que sinon, s'il n'y a pas cette vraie originalité du montage, eh bien sinon, eh bien, il s'agit d'un récit, d'une histoire d'amour comme il y en a des millions. Voilà, hein. On part depuis la première rencontre et le coup de foudre immédiat, puis la formation du couple et les joies et malheurs de toute existence, comme la naissance d'un enfant, la confrontation entre les ambitions professionnelles, personnelles de chacun des deux protagonistes et l'épreuve de la maladie, surtout, bien entendu. Moi, j'ai trouvé le film plaisant, émouvant. Alors, c'est un mélo, hein, c'est un mélo qui s'assume totalement. Ça tient beaucoup au charme et la justesse des deux acteurs principaux, donc Andrew Garfield et Florence, alors Pug ou Pug, je ne sais plus comment on doit dire exactement.
Bon, ça doit être Pug, je pense.
Alors, c'est sûr, le film ne révolutionnera pas le cinéma, mais il est très agréable, il est touchant de bout en bout pour qui aime les histoires d'amour de couples modernes. C'est présenté ici sous forme de puzzle, je suis d'accord, mais moi je trouve que le film est un bon film, un film agréable. Le film se conclut même par une très émouvante ellipse pleine de pudeur qui lui évite de tomber dans le lacrymal. Bref, c'est un joli film que je recommande volontiers, Pierre.
Ben moi aussi. Je trouve que le titre original, d'ailleurs, We Live in Time, reflète plus le scénario. En effet, dans ce film, on est sans cesse baladé dans le temps, qui plus est à un rythme très élevé, d'avant en arrière, d'arrière en avant dans le temps, et sans transition. Si bien qu'au début, moi, j'étais un peu paumé quand même, je l'avoue. Almout enceinte, puis pas enceinte, puis avec une petite fille. Mais finalement, on s'habitue. Et on comprend que tout le film va être comme ça, finalement. Ce film est une romance à caractère dramatique. On apprend assez vite que Almut est atteinte d'un cancer. Malgré cela, le couple embrasse la vie à plein cœur et profite de chaque instant. Ce film est touchant, émouvant, plein de fraîcheur pour ce début d'année. Et moi, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé.
Eh bien, tant mieux, parce que nous, moi aussi. Donc, l'amour au présent, Méga CGR, Pâté Quinconce. Moi, je l'ai vu en VO. Alors, dernier film à l'affiche cette semaine, c'est au cinéaste Toto Chan, La petite fille à la fenêtre, réalisé par Yuzuke Suzuki et Shinosuke Yakuwa. Ce sont des Japonais, bien entendu. Oui. Je n'ai pas fait attention s'ils avaient réalisé d'autres films auparavant. Shinosuke Yakuza, c'est son premier long métrage distribué en tous les cas. Donc, on peut penser que ce réalisateur et scénariste japonais a réalisé d'autres films inédits jusqu'à maintenant en France. Le film est un film d'animation, 1h54. Alors, je pense qu'il est uniquement en version originale au cinéaste, c'est pas précisé. Oui, c'est ça. Tokyo, début des années 1940, Tetsuko, que tout le monde appelle Toto-chan, est une petite fille pleine de vie qui mène la vie dure à son institutrice qui finit par la renvoyer. Ses parents décident de l'inscrire à Tomoe, une école pas comme les autres, où de vieux wagons font office de salle de classe. Son directeur y met l'accent sur l'indépendance et la créativité des enfants. Tandis que le Japon s'enfonce dans la guerre, Toto-chan va découvrir que les petites expériences de la vie sont plus importantes que les leçons. Ben, la presse a beaucoup apprécié. Dans l'Obs, le Xavier Harper déclare, dans cette ode à l'indépendance et à l'espièglerie, la beauté faussement naturaliste du dessin évoque avec justesse la perte tragique de l'innocence et conclut sa chronique par « superbe ». Stéphane Dreyfus, dans La Croix, déclare que c'est délicat et touchant. La rédaction du Point parle d'une merveille à savourer à partir de 9 ans. Léa Colombo dans Les Échos, un récit sensible sur la force de l'éducation positive. C'était un terme qui n'existait pas à l'époque, hein, dans les années 40. Dans un écrin classique, mais terriblement efficace. Pascal Vergerot dans Ouest France, adapté d'un best-seller de la japonaise Tetsuko Kuro Yanagi, Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, de Shinosuke Yakuwa, est un plaidoyer pour la paix et la tolérance qui séduira petits et grands. Sylvestre Picard en première, armé d'une animation canon, les mimiques de Toto sans cesse en mouvement sont irrésistibles, le film profite de ses envolées les plus lyriques pour vous confronter, comme son héroïne, à l'expérience du deuil avec une franchise désarmante. Véronique Coapé, Le Monde, loin de négliger le caractère distrayant qu'assurent de fait les facéties de l'héroïne, le cinéaste construit avec finesse un récit initiatique au caractère doux amer, bousculé par les soubresauts de l'histoire. Nous ne l'avons pas vu, et Pierre, qui est pourtant un fan de cinéma japonais,
oui, mais...
n'est pas allé le voir, mais il n'est pas trop fan de l'animation.
Voilà, c'est ça. Oui.
Voilà, donc quand ça fait 1h54 aussi,
en plus,
voilà, il y a le risque. Alors, Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, eh bien, c'est proposé par les cinéastes avec, je crois, une séance par jour, je vérifie, c'est ça, une séance par jour. Quelquefois, les séances sont même un peu tard, hein. Si c'est un film pour les enfants, 20h45, un film qui fait 2h. Bon, enfin, je vais pas jouer les vieux, hein. Ce que je suis pourtant. Allez, une petite pause musicale avant de vous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine. Eh bien, c'est une bizarrerie, enfin une bizarrerie. C'est un titre que l'on entend dans Un ours dans le Jura, et j'ai découvert que Clélia Vega était Mancelle et que le titre The Field That Is Electric, c'est elle qui l'a composé. J'ai découvert ça en lisant le journal West France. Il y avait un article qui était consacré. Et elle était elle-même très surprise quand on lui téléphone et qu'on lui annonce que cette chanson était choisie par Franck Dubosc pour figurer dans la bande originale de son film. Donc, une Mancelle, c'est bien. Clélia Vega, The Field That Is Electric, c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. C'est parti. C'est très folk.
Outside the world is ending. Find me in the field that is electric as I lay my face down on the ground. The wind, he will sing to me, pretending he understands, and the sun will caress me, but also. Maybe if I'm lucky, the field will work its magic. It'll lift my arms up and I will see my hands. And my skin, it will feel like it is warm again. And my eyes, they will open if I'm lucky enough to see. I'm but a waving form. Find me in the field that is electric and the mud. It feels like a bed in here. The grass, it will feed on me, though I'll be lighter than a summer wine. And the window, he will try to chill. The trees, they will wave and bend to see if it's really me. And the wind will say he's sorry and he'll brush my hair. And the field, it will spark as I try to rise from the dark. With the moon watching me silent, stark, naked in its light. Open.
The Field That Is Electric, un titre de Clélia Vega, donc chanteuse mancelle, que l'on entend dans le film de Franck Dubosc, Un ours dans le Jura. La semaine prochaine, qu'allons-nous nous mettre sous les yeux? Eh bien, La chambre d'à côté de Pedro Almodovar, un film très attendu avec Tilda Swinton et Julianne Moore. John Turturro également. Il y aura une copie au pâté, ça c'est sûr, c'est un film pâté. Et il y aura une copie aussi au cinéaste. Il y aura Criminal Squad Pantera, ça c'est un film d'action avec Gérard Butler, 50 Cent. Et puis La fille d'un grand amour d'Agnès de Sassy avec Isabelle Carré, François Damiens. Et puis les cinéastes proposeront Hider à Sokcho, alors un film qui se passe, semble-t-il, en Corée du Sud, ça c'est pour Pierre.
Ah, c'est pour moi ça, oui.
Et puis un autre film qui se passe cette fois-ci en Chine, Les Feux Sauvages.
C'est pour moi.
Et c'est pour lui aussi. Alors peut-être qu'il y aura-t-il Bernie, il n'est pas annoncé le film de Richard Linklater au cinéaste, pourtant c'est le genre de film qui est pour le cinéaste, Richard Linklater, mais on verra bien. En tous les cas, nous cette semaine, on vous recommande, en tous les cas, moi je vous recommande Un ours dans le Jura, Pierre un peu moins, et puis L'amour au présent.
Ah oui, L'amour au présent, je suis tout à fait d'accord.
Pour ceux qui aiment les romances, un peu tristes,
oui.
Un peu même beaucoup tristes.
Voilà, pas toujours.
Pas toujours, mais bon. Voilà, c'est ce qu'on pouvait vous dire en ce début d'année 2025. On se retrouve très probablement la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.
Pour Clap. Au revoir.